Conquérir le pouvoir est une chose, l'exercer et le maintenir en est une autre. Cette semaine, Les Nouveaux Chemins vous propose de réfléchir à cet art si particulier qui consiste non pas à se faire élire, mais à gouverner. Car si la conquête du pouvoir réclame un effort et une méthode spécifique, que fait-on lorsqu'on atteint son objectif ? En quoi consiste l'exercice de la fonction de gouvernant ? Si gouverner est un art, de deux choses l'une. Soit l'on considère qu'il est le fait de génie, dont les secrets de fabrication seraient innés et intransmissibles, soit l'on part du principe que c'est une technique, et donc qu'elle est, en droit, accessible à tous. En d'autres termes, et la question est de taille, peut-on vraiment apprendre à gouverner ? Demain mardi, Jean Terrel viendra vous proposer une réflexion sur l'art de gouverner à partir de la pensée de Hobbes et du pacte d'obéissance qu'implique le Léviathan. Mercredi, Jean-Louis Fournel continuera la réflexion en vous invitant à lire Le Prince de Machiavel. Et jeudi, c'est Daniel Colson qui se demandera ce qu'il reste de l'art de gouverner dès lors qu'il n'y a plus de gouvernement, comme c'est le cas dans la pensée anarchiste et notamment celle de Bakounine. Puisque cette question, au fond, est vieille comme la politique, commençons cette semaine en quittant l'actualité la plus proche et en nous déplaçant dans l'espace et dans le temps. Dans la Chine, du 3e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque de la période troublée des royaumes combattants, juste avant l'instauration du Premier Empire, et où vécut le penseur Han Feizhe, pour qui l'art de gouverner est avant tout la mise au point d'une stratégie de domination absolue.
Le pouvoir doit rester caché. Il s'enracine dans le non-agir. Tous s'affairent aux quatre coins du monde, mais l'important est de se maintenir au centre. L'homme saint se tient auprès de la source, tandis que les quatre coins du monde viennent à lui. Il demeure sans attente, la vacance au cœur, et obtient naturellement ce dont il a besoin. Quand il a trouvé la place qui lui revient en propre, le sage, reposé dans les ténèbres, contemple la lumière. Les êtres prennent place à sa droite et à sa gauche, puis, une fois ces derniers convenablement installés, il ouvre les portes et fait face au monde. Il ne change rien, n'altère rien, mais agit grâce aux deux leviers que sont la récompense et le châtiment. C'est de cette façon qu'il œuvre, jamais autrement, toujours ainsi. Voilà ce qu'on appelle marcher conformément à l'ordre des choses. S'il fait part de ses dégoûts et attirances, ses sujets cherchent à le manipuler. S'il se montre indulgent et peu enclin à sacrifier des vies lorsqu'il le faut, ses sujets abusent de sa compassion. Il existe une hiérarchie naturelle entre le haut et le bas, entre le supérieur et l'inférieur. Lorsque les sujets et les princes intervertissent leur place et rôle, le pays sombre dans le chaos.
Bonjour Alexis Lavis.
Bonjour.
C'est donc avec vous que nous allons parler de Han Feizhe. J'espère prononcer correctement, vous me reprendrez. Vous êtes chargé de cours à l'université de Rouen et l'auteur d'une nouvelle traduction de l'art de gouverner, qui est une sélection de textes de Han Feizhe, qui lui-même avait beaucoup écrit, on en parlera au cours de l'émission, et notamment l'auteur d'un recueil qui s'intitule aussi Han Feizhe ou Le Tao du Prince. Je renvoie là une édition de Jean Lévy qu'on trouve en point seuil. Dans le texte qu'on a entendu, qui était interprété par Georges Claes, on a cette phrase assez frappante aujourd'hui pour quelqu'un qui vit au XXIe siècle, qui consiste à décrire ce que doit être le pouvoir. Il dit ceci: le pouvoir doit rester caché, il s'enracine dans le non-agir.
Oui.
Le fait que le pouvoir doit être caché et qu'il consiste en une forme d'absence d'action va à l'encontre de la conception qu'on se fait du pouvoir aujourd'hui.
Ah oui, tout à fait. Il faut remettre aussi les choses en leur temps et leur contexte. Chez Han Fei, et au fond, il partage ça avec les penseurs taoïstes, ceux qui dirigent, ceux qui gouvernent, c'est le Dao, donc ce qu'on appelle la voie ou la mouvementation propre aux choses, qui est une traduction beaucoup plus littérale de Dao. c'est un principe où une mouvementation qui n'est pas apparente. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas apparente qu'elle n'est pas. Lao Tzu, par exemple, prend souvent comme qualificatif pour décrire le Dao une vallée. Et il dit une vallée, personne ne la voit. On voit le flanc des collines, on voit la rivière au fond, mais la vallée en elle-même, elle est où ? Elle n'est pas. C'est une sorte, c'est un rien. Mais c'est un rien hautement présent. Et Han Feizi a été très influencé par les penseurs taoïstes. Et il essaie de comprendre le pouvoir à partir du Dao lui-même. Donc le prince est celui qui tient quelque chose du Dao. Et donc là déjà, on pourrait dire que c'est une position de principe par rapport au pouvoir. Donc le prince, pour être véritablement celui qui ordonne, comme le Dao ordonne, à partir d'une forme, on pourrait dire, de loi naturelle, c'est-à-dire il est le garant du fonctionnement des choses telles qu'elles sont. Le prince ne doit surtout pas, on pourrait dire, du fait qu'il est un individu singulier, né dans une certaine circonstance, ne doit surtout pas rajouter de la particularité. Il doit laisser absolument se dérouler les choses comme elles sont. Et donc, il doit se mettre en retrait de son particularisme. Ça, c'est le premier aspect, qui est un aspect, on pourrait dire, de principe. Et après, il y a un aspect plus pratique, qui est simplement, si vous voulez véritablement tenir la position dominante, supérieure, il faut que personne ne puisse savoir ce que vous pensez. Il faut que les gens se dévoilent devant vous, mais que vous ne soyez jamais nus devant eux. Vous soyez toujours un mystère pour que les personnes ne sachent pas ce qu'il faut vous dire pour vous plaire, mais qu'elles soient démunies face à ça, et donc elles n'ont plus de choix, c'est simplement vous dire ce qu'elles ont dans la tête.
Donc là, plus que une position de principe, on a le déploiement d'une stratégie à mettre en œuvre pour véritablement exercer le pouvoir et le maintenir.
Oui. Une stratégie, mais alors dans un sens très minimal, parce que Han Fei n'aimait pas trop, au fond. On dit souvent que les penseurs comme Han Fei, qu'on appelle les légistes, étaient des stratèges, ils aimaient bien les plans de bataille. Mais en fait, c'est partiellement faux. Han Fei n'aimait pas du tout, vous l'avez dit un petit peu dans votre chapeau, l'intelligence, et se méfiait des coups, des manipulations, des trucs. Et non, c'est une position très très forte, c'est-à-dire ce qui se tient au-dessus, comme je le dis, ce qui se tient au-dessus ne se tient pas au-devant. Ce qui se tient au-dessus est le regardant, et pas le regardé. Le souverain, c'est celui qui voit, c'est pas celui qui est vu. Donc vous voyez, pour qu'il y ait cette inversion-là, qui pour nous maintenant est une inversion, parce qu'on est dans un régime de pouvoir, de représentation et de communication. Donc le dirigeant doit être absolument en vue. D'ailleurs, on le dit souvent, est-ce qu'il est en vue ? Alors, pour Han Fei, c'est une catastrophe. Si vous êtes en vue, on sait qui vous êtes, on se connaît vos faiblesses, on connaît vos failles, on connaît vos goûts, et là, vous êtes manipulé à outrance. Donc c'est une position, au fond, de grand bon sens.
Mais qui a quand même une fin directement pratique. Alors, c'est peut-être pas stratégique, mais en tout cas pratique, puisque le but est quand même d'essayer d'énoncer les différents principes au nom desquels on va pouvoir exercer une forme de souveraineté de la manière la plus équilibrée, la plus pérenne possible. Lorsqu'il dit donc le pouvoir doit rester caché, c'est ici une condition à suivre de manière à exercer sa souveraineté sans s'exposer aux failles, sans s'exposer aux dangers que représentent les personnes qui elles-mêmes sont gouvernées.
Et ce qui est intéressant en fait chez Han Fei, c'est qu'il pense ce que vous dites à partir de la topographie, on pourrait dire, du pouvoir. Le pouvoir, c'est ce qui est assez intéressant dans la pensée chinoise, c'est que c'est très simple. Mais très simple, le simple n'est pas le facile. Le simple, c'est très phénoménal. On a le phénomène sous les yeux. Alors il dit, le pouvoir, c'est quoi ? Vu qu'on est dans une société fondamentalement verticale. Ce n'est pas du tout démocratique, mais à aucun moment. Qu'est-ce que c'est le pouvoir concrètement ? C'est d'être au-dessus. Donc, si... En quoi ça consiste d'être au-dessus des gens ? Et donc, si vous pensez que le pouvoir réel, c'est d'être au-dessus, il y a des conséquences sur la façon de se tenir au-dessus. Et au fond, l'art d'être roi, l'art de régner, c'est le savoir se tenir au-dessus. La solitude extrême, quasiment inhumaine, Han Fei en parle, l'impartialité pure, donc aucun goût personnel, rien, Oui, c'est quasiment un sacerdoce. Et ça vient de la position elle-même du pouvoir, pas de l'art du gouverneur.
Choisir, c'est manquer l'universel. La vraie voix, elle, ne laisse rien de côté. Voilà pourquoi Chen Tao rejetait la connaissance et son propre moi pour se laisser porter par l'inéluctable. Car pour lui seul, le détachement permettait de se conformer aux lois de l'univers. Connaître, c'est ne rien savoir, avait-il coutume de dire, signifiant par là le souverain mépris où il tenait la connaissance. Il évoluait avec les êtres et les choses, restant toujours vague, flottant. Il avait abandonné toute opinion personnelle afin de se garder de tout préjugé. Il ne s'intéressait ni au savoir ni à la réflexion, ne cherchant ni à deviner le futur ni à remonter au passé, se contentant d'être là, présent. Il marchait quand on le poussait, avançait quand on le traînait. Il tourbillonnait comme le vent, virevoltait comme la plume, tournait comme la meule. Pourquoi donc ? Parce qu'il demeurait persuadé que les objets inconscients, n'ayant pas le malheur d'être affublés d'un moi, et ne connaissant pas la fatigue d'avoir à faire travailler leurs méninges, se conformaient dans chacun de leurs mouvements à la raison des choses. Il resta toute sa vie obscur. Il disait encore, il suffit d'être comme les choses inanimées. À quoi servent la sagesse et la sainteté? Une simple motte de terre ne perd jamais le Tao. Alexis Lavis, la question se pose quand même de savoir comment le roi peut-il d'un côté être le plus fidèle possible au Tao. Et là, donc, j'ai lu ce texte où l'on entend la description du Chen Tao qui, pour suivre la voie, se dépouille au maximum de son moi, suit une espèce de loi cosmique générale qui fait qu'il délègue complètement sa faculté de choisir et de décider et qu'il mène une vie obscure, est-il écrit. Comment cela est-il compatible avec l'exercice du roi qui quand même doit gouverner, mettre en œuvre certaines réformes, prendre des décisions et agir ? Comment est-ce que là, il n'y a pas un paradoxe entre l'inaction prônée par le taoïsme et de l'autre, l'action qui est nécessairement requise par la position même de roi ?
Il y a un paradoxe évident et c'est un paradoxe qui a été relevé par des penseurs chinois eux-mêmes. C'est-à-dire que celui qu'on appelle Shen Tao, qui était un des premiers penseurs du légisme, ce qu'on appelle le légisme, qui a été dans la même académie d'ailleurs que Han Fei, c'était son aîné, a été assez critiqué par un autre grand maître taoïste qui s'appelle Zhuang Zi, que les gens connaissent un peu maintenant. Et Zhuang Zi disait, mais l'entente au fond du Tao Ka et du rapport au Tao Ka Shen Tao est une entente de mort. Il disait, c'est un Tao pour les morts. Être comme une motte de terre n'a jamais été l'idéal des taoïstes, et même des gouvernants taoïstes. C'est un autre rapport à l'action. C'est un rapport à l'action qui n'est pas basé sur le projet, l'idée qu'on se fait des choses et la volonté, mais sur l'observation d'abord, le recueillement des informations. Vous voyez, vous partez du réel pour agir. C'est pas un agir qui s'ancre dans la volonté et dans la détermination a priori d'un projet qu'il faudrait réaliser sur le réel. Vous voyez ? Donc, on pourrait dire le Shen Tao caricature un petit peu la passivité taoïste. En réalité, c'est un autre rapport à l'action qui est en jeu. Donc, pour un gouvernant, il s'agit d'abord, et très concrètement, d'être invisible, c'est-à-dire de ne pas offrir aux ministres et à ses conseillers, on pourrait dire, une prise d'appel pour le manipuler. C'est très concret. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Juste, il se tient au centre de cela, sans bouger, c'est-à-dire, là on est dans un ordre métaphorique, sans montrer d'inclinaison partisane, et là il voit les autres exposer qui ils sont, leurs compétences, leurs talents, et quelle est sa fonction là ? Il nomme, c'est-à-dire il dit toi tu vas faire ça, toi tu ne vas pas faire ça, il répartit les tâches comme un chef d'orchestre. C'est pas à lui de jouer l'instrument, c'est au musicien de montrer qu'il est excellent. Et ensuite, il écoute chacun et il compare les paroles aux actes. Il compare les discours d'il y a un an à ceux de l'année d'après. Voilà. C'est ça que fait un souverain.
Donc le souverain serait comme un chef d'orchestre qui assemblerait entre elles différentes voix, qui sont celles de l'administration, des gens qu'il a nommés autour de lui, de manière à obtenir le gouvernement le plus efficace possible, sans lui-même révéler quoi que ce soit de ses propres opinions, de ses goûts, de son apparence, de sa personne, oui. De manière à se préserver de toute forme d'attaque possible.
Et de partialité, parce que chez Han Fei, la loi, c'est le souverain, mais l'inverse est vrai. Le souverain, c'est la loi. Les deux, faut tenir les deux ensemble. Et c'est pour ça que ça n'est pas un absolutisme, au sens où on l'entendrait maintenant. La parole du souverain fait loi, mais la loi doit être dans chaque parole du souverain. C'est-à-dire que le souverain, au fond, en tant qu'être humain, ne doit apparaître nulle part. Il doit être la pure expression de la loi. La loi, en chinois, ça se dit fa, et l'étymologie est intéressante. Ça veut dire à la fois l'eau et la façon dont l'eau va. On pourrait dire, en français, on dit « ça coule de source ». Et c'est ça, au fond, l'étymologie de la loi. Ça coule de source. Donc il faut être absolument au plus près de la situation telle qu'elle est. Donc vous avez tel ministre, vous avez telle force en présence, et vous voyez ce que vous pouvez faire avec.
Mais de quelle loi parle-t-on ici ? C'est la loi naturelle ou la loi des hommes, celle que justement que les hommes vont voter de manière à pouvoir vivre ensemble en société ?
C'est la grande tension du monde chinois. C'est-à-dire que chez Confucius, cette loi-là, c'est la tradition héritée de la dynastie Zhao qu'il faut préserver. Chez Sun Tzu, qui est un des très grands penseurs confucéens, qui a été le maître de Han Fei. Donc Han Fei a eu un maître confucéen et un immense maître confucéen. Cette loi, c'est vraiment le rite. Il faut penser tout à partir du rite. Et ça, c'est tout à fait fascinant pour nous parce que ça nous déplace et en même temps, c'est vertigineux. Et chez Han Fei, qui a été quand même très, très touché par le taoïsme, tout ça est trop lié à la convenance. Et au fond, gouverner à partir d'idées anciennes, ça n'est pas être en rapport à la situation telle qu'elle est. Donc, effectivement, on a chez Han Fei une volonté de penser la loi à partir de ce qu'on appelle loi naturelle. Ce qu'il faudrait dire, au fond, la situation telle qu'elle est et voir comment on peut faire au mieux avec ça.
Donc il fait du constat, vous parlez de la situation telle qu'elle est, il fait du constat de l'ordre des choses à un moment donné, l'origine d'une loi qui dépasse largement le cadre de la vie humaine et qu'il faudrait suivre, à laquelle il faudrait être fidèle pour exercer le métier de roi.
Oui, c'est tout à fait ça. Au fond, il faut être fidèle. Si on voulait être un peu outrancier, on pourrait dire un vrai roi, c'est l'être le plus fidèle qui soit à la vérité. Et ce rapport entre loi et vérité est illustré dans un des chapitres que j'ai traduit, qui s'appelle Monsieur He, et qui dit très clairement, je crois, le roi, c'est celui qui est fidèle absolument aux choses telles qu'elles sont, qu'à la vérité. Et la loi, c'est la vérité.
Alors la loi, c'est la vérité.
Et la vérité, c'est la loi.
Et justement, et c'est peut-être cette conjonction entre les deux, cette identité entre loi et vérité qui fait de la conception qu'a Han Fei de la loi une conception extrêmement sévère, extrêmement dure. Les nombreuses pages là, que vous avez traduites et qui se trouvent dans votre recueil, hein, je rappelle le livre qui est publié aux presses du Châtelet, montrent bien cette espèce de terreur que doit instaurer la loi et la façon dont le roi doit faire en sorte que les gens respectent cette loi et donc d'utiliser ce qu'il appelle les deux leviers du pouvoir, les récompenses et les châtiments. Quiconque ne va pas respecter la loi va être châtié. Et il le dit clairement, le châtiment, c'est la mutilation, voire la décapitation.
Ah oui, puis c'est quelque chose que fait remarquer Jean Lévy que vous citiez, qui est une belle remarque. C'est pas dans le livre sur le Tao du Prince, mais c'est le livre qui est d'un autre maître légiste qui s'appelle Shang Yang, le prince Shang. Et là, il fait remarquer très justement que, au fond, la loi naturelle, donc cette loi naturelle dont vous parliez, techniquement pour le roi, se résume à du droit pénal, si vous voulez. Donc, et là, vous avez bien ça, effectivement, châtié, récompensé.
La loi ne connaît pas d'exception et peut sanctionner les plus puissants. Elle est le fil de plomb auquel on se réfère pour mesurer la rectitude de chaque chose. Ce que dit la loi, le sage ne le discute pas. Et le téméraire ne le brave pas. Chaque faute est punie, nul n'y échappe, pas même les puissants. Chaque mérite est reconnu, nul n'est oublié, pas même le plus humble. La loi empêche les abus des supérieurs hiérarchiques, remédie aux négligences des subordonnés, maintient l'ordre, met au jour les fautes, garde du mal, contrôle les excès et unifie les coutumes et usages populaires. Les châtiments rendent les fonctionnaires dociles et le peuple respectueux. Ils anéantissent le lucre et la paresse, prévient du mensonge et des tromperies.
Je dis,
Alexis Lavitre, revenons sur cette importance de la loi dont on a pointé juste avant le paradoxe originaire, puisque en réalité la loi est à la fois la loi, donc c'est la vérité, vous l'avez dit, mais cette vérité est-elle d'ordre divin ou humain, où la loi trouve-t-elle son origine? La question se pose dans la mesure où, dans le texte que j'ai lu juste avant, hein, tiré de l'article ou de l'extrait de Hanfei qui s'intitule « Faire régner la loi », il est dit que la loi ne connaît pas d'exception, qu'elle peut sanctionner les plus puissants, qu'elle est le fil de plomb auquel on se réfère pour mesurer la rectitude de chaque chose. Il importe quand même de savoir, de connaître l'origine de cette loi, pour savoir au nom de quoi on juge le bien et le mal, au nom de quoi on décide de châtier ou de récompenser.
Eh oui, en effet.
Donc là, ça pose quand même un problème.
Ah, puis ça leur pose un problème à eux aussi, enfin aux penseurs chinois. Ils sont véritablement tenus, comme nous l'avons été tenus, nous, entre le rapport entre la loi conventionnelle et la loi naturelle, au fond. C'est un problème très réel. Chez les Chinois, vous vous référez à une loi acquise, on pourrait dire, ou à une loi, c'est-à-dire à la loi des ancêtres, voilà. Donc la loi des dynasties plus anciennes, donc la dynastie Zhao, qui était la dernière grande dynastie royale, qui avait fait tout un système de rites fondé sur le culte des ancêtres. Voilà. Donc il y avait telle famille pouvait rendre tel culte à tel descendant. C'était une complexité incroyable. On pense que les sociétés anciennes sont simples. C'était complètement inouï comme complexité de rapport. Et donc là, vous avez un cadre, on pourrait dire, voilà, quelque chose. Le problème, c'est que pour Hanfei, ce sont des lois passées. Ce sont des lois passées. Donc, on ne peut pas gouverner en regardant dans le rétroviseur, si vous voulez. Donc, il dit, ça, c'est pas en rapport. On ne peut pas se mettre en rapport aux choses telles qu'elles sont si on rentre dans ce qui, pour lui, est une convention. Donc, il essaie de trouver un rapport plus originaire à ce qu'on appelle loi. Et il regarde au fond le mot même loi, comme je vous ai dit, qui veut dire ce qui coule de source, ce qui va de lui-même. Et donc, à partir du taoïsme, il essaie de comprendre comment, au fond, les choses par elles-mêmes s'ordonnent. Il y a ce qu'il appelle la hiérarchie naturelle. Ce que nous, on appellerait loi naturelle, eux l'appellent hiérarchie naturelle. Je vous rappelle la verticalité foncière de la société chinoise où l'homme est pensé en tant qu'humain, en tant qu'être humain, par la verticalité, c'est-à-dire c'est celui qui se tient debout entre ciel et terre, donc qui est un axe médian. Et le roi, c'est celui qui se tient le plus debout. Le fil de plomb, là, vous l'avez bien. Donc il faut absolument ancrer ou penser la loi à travers la mouvementation même des choses. Alors après, vous voyez, c'est très vague.
Mais là, oui, puis on en vient à un deuxième paradoxe. Oui. Non seulement on ne connaît pas vraiment l'origine de la loi, on ne sait pas si elle est humaine ou divine, et en plus, la loi est à la fois acceptée, enfin, tient sa légitimité de son caractère atemporel et absolu, mais en même temps, le roi se doit d'avoir une attention à une époque donnée. C'est-à-dire que la loi ne s'applique pas, quelle que soit l'époque dans laquelle on vit. Chaque époque a une loi qui lui est propre.
Oui, oui, mais c'est, au fond, ça n'est pas une loi... ça n'est pas une loi aussi écrite que la nôtre, pourrions-nous dire, ou ça n'est pas une loi, elle n'est pas non plus jurisprudentielle. C'est faux. Au fond, il faudrait essayer de penser la loi non pas dans sa lettre, mais dans son principe. Et dans son principe, il faut arriver à entendre ce que, au fond, toutes les grandes sociétés ont pensé. Je suis en train de traduire en ce moment des textes sanscrits et ce que les Indiens, donc des Védas et tout, appellent le dharma. Dharma, ça veut dire loi. Enfin, on traduit ça par loi. Dharma, ça vient de da, et da, ça veut dire poser. Ce qui est posé. Et ce qui fait loi, c'est ce qui est solide, posé, face à vous, qui se tient de lui-même. Les Grecs avaient la même chose, ils appelaient ça thémis, le rapport entre thémis et diké, qui est un des grands moments, au fond, de la naissance du politique en Grèce. Par diké, le passage d'une loi divine, ce que vous appelez une loi divine, mais au fond la loi divine, elle n'est pas divine, c'est juste ce qui est.
C'est-à-dire, on peut l'appeler loi cosmique également d'ailleurs.
Oui, mais au fond, il faudrait juste dire c'est parce que c'est. Vous voyez, il y a une collusion entre l'être et le devoir être. Être et devoir être, c'est le même. Ça c'est dharma, thémis, et au fond, ce que les Chinois appelaient fa.
Est-ce qu'on peut parler de nécessité ou est-ce que ce serait
oui,
une manière...
Oui, tout à fait, on pourrait parler de nécessité. Mais il faudrait coller les choses ensemble, être et devoir être, sans distinction. Alors que chez nous, être et devoir être est séparé, et c'est cette distance entre les deux qui fait le sens de la loi.
Mais c'est cette distance aussi qui fait que la morale a un sens.
Exactement.
Et donc, est-ce que ça veut dire que du coup, de la part du souverain, de celui qui essaye d'appliquer et de faire en sorte que la loi s'applique, la morale est complètement absente de ce domaine-là, de l'art de gouverner ?
Totalement absente, et au fond, c'est la grande tension entre les taoïstes et les confucéens. Les confucéens pensent que l'homme, en tant qu'homme, doit se tenir dans une culture de son humanité permanente. Voilà. Il doit enrichir son humanité en permanence, c'est ce qu'on a appelé la morale. Donc il y a des rites, il y a des règles, il y a des façons d'être. L'homme n'est pas d'emblée humain, il a à l'être toujours, il doit l'acquérir de plus en plus. Ça s'apprend. Sun Tzu, le maître de Han Fei, était totalement dans cette pensée-là. L'être humain, il faut apprendre à être humain. Donc là, on a quelque chose de l'avoir à être, même du devoir être. Cet écart entre être et devoir être. Chez les taoïstes, pas du tout. Il faut être sans médiation. Plus on pense des médiations entre être et avoir à être, plus on est à côté. Et le scandale qui frappe l'œil taoïste, c'est de voir à quel point nous ne sommes pas dans notre être. Et donc, à quel point tout ça est beaucoup trop compliqué. Et donc, il faut simplifier, c'est-à-dire être le moins partial possible, ayant le moins d'avis possible. Oui.
Mais alors du coup, est-ce que ça n'enlève pas tout son sens à la notion d'apprentissage ? Pour en revenir au thème de cette semaine, l'art de gouverner, est-ce que si être égale être, on ne peut pas apprendre à être ? On ne peut pas apprendre à exercer quelque chose ? Et donc du coup, soit on peut l'être, soit on ne peut pas l'être en réalité. Il n'y a pas toute cette notion d'exercice, de perfectionnement, d'apprentissage, d'un savoir-faire.
À vous arriver en fait à trouver la faille ou le biais par ce que je disais au début, la position. Si vous êtes mis dans une certaine position, il y a une règle qui se déploie, du fait que vous êtes à droite et pas à gauche, en haut ou en bas. Et il faut juste être absolument limpide par rapport à cette position. Vous êtes le miroir de la situation dans laquelle vous êtes. Le mot-clé pour les penseurs du légisme, c'est, ils appellent ça « che », excusez-moi pour le barbarisme, qui veut dire position, situation et aussi influence. Vous voyez, c'est les trois ensemble, il faut penser les trois, à la fois topographique et à la fois le pouvoir. Donc ça n'est pas vous en tant que sujet qui gouverne par vos talents, par vos aptitudes, c'est la situation qui vous met dans une situation gouvernante.
Les hommes des temps anciens ne cultivaient pas la terre. Les plantes sauvages et les fruits des arbres suffisaient à assurer leur subsistance. Les femmes ne s'adonnaient pas au tissage, car les plumes d'oiseaux et les peaux de bêtes suffisaient à vêtir la communauté. Il n'y avait pas de querelle, car chacun trouvait facilement ce dont il avait besoin pour vivre. Les hommes étaient peu nombreux et les ressources abondantes. À quoi bon se disputer ? Personne ne cherchait à s'enrichir. Les châtiments n'existaient pas. La population se gouvernait d'elle-même. Aujourd'hui, les familles de 5 enfants sont nombreuses. Si ces 5 enfants font à leur tour 5 enfants chacun, le grand-père se retrouve à la tête d'une troupe de 25 petits-enfants. Lorsque la population croît, les biens se font plus rares. Il faut alors de plus en plus se battre et travailler pour gagner une maigre pitance. L'avidité croît et avec elle, les disputes. Le désordre s'installe et le recours au châtiment devient nécessaire.
Je me débine, chine, chine, chine. J'ai filé en Chine, j'ai trinqué, chine, chine. Des tasses de thé au jasmin, chine, chine, chine. Je reviens de Chine, ça fait ping, pong, ping. Les yeux, ça les clignent, c'est pas tellement clean. Mais tu d'orgueline quand la belle Dong Kong la nuit s'illumine, ça fait gong.
Vous écoutez France Culture, vous êtes sur les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h32 et nous parlons de l'art de gouverner toute cette semaine et aujourd'hui de l'art de gouverner selon Han Fei Tse, le penseur chinois Han Fei Tse en compagnie d'Alexis Lavis à qui on doit une nouvelle traduction de l'art de gouverner qui est publiée par les presses du Châtelet et vous écoutez Claude Nougaro, Chichin, c'est évidemment un choix de François Connat, vous l'aurez reconnu.
La tongue de flamme aussi longue qu'un dragon. Et le royaume de la vie en jaune, les pagode rouge où bouge la dynastie Ming. J'ai visité Xian, j'ai zioté Guilin, j'ai vu les rouleaux de vélo quand ils font leur dring, 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 chin, chin, chin. J'ai filé en Chine quand Paris me mine, je mets les turbines, je débine, chin, chin.
Alexis Lavis, la chanson qu'on est en train d'écouter me fait penser que c'est lire les textes d'Anne Faïtse et de vous entendre en parler est une bonne façon d'aller, de dépasser les idées reçues que l'on peut avoir sur la pensée chinoise qui est quand même très peu connue en France. Enfin, on peut faire des années d'études de philosophie en France sans jamais étudier un penseur chinois. Oui. C'est quand même ça, c'est ce qui explique sans doute la méconnaissance qu'on a de cette œuvre-là. Et dans le texte qu'on a entendu juste avant, justement, il me semble que c'est un bon moyen de continuer à pointer les paradoxes, hein, ce que nous faisons depuis le début de cette émission, qui permet de bien cerner ce dont nous parlons aujourd'hui. Puisque, donc, vous l'avez dit, cette importance de la position du souverain, c'est une réflexion qui est quasiment topographique, vous l'avez dit encore une fois, le souverain est au-dessus, non pas au-devant.
Et c'est la position elle-même qui gouverne et pas le souverain en tant que personne.
Voilà, c'est ça. Donc on est vraiment dans une réflexion qui est d'ordre topographique, qui prend en compte le lieu, le positionnement des individus, enfin en tout cas de la façon dont les individus se situent les uns par rapport aux autres. Mais il y a un autre paradoxe que cela soulève et que le texte, il me semble que Georges Clès a interprété juste avant, pointe bien, c'est la notion de changement et d'évolution à travers les époques. Puisque la réflexion de Han Fei telle qu'on la présente jusque-là, hein, les principes que l'on a énoncés, un roi ne se montre pas, un vrai roi n'agit pas, seule la loi gouverne, le vrai pouvoir ne se partage pas, ça on ne l'a pas encore dit, mais on va pouvoir en dire deux mots, laisse à penser que ces principes-là sont valables de tout temps et quelles que soient les époques. Or, le texte qu'on a entendu montre bien la conscience qu'a Han Fei de l'évolution historique dans laquelle s'inscrit l'homme, dans laquelle s'inscrivent les hommes, et notamment cette forme de croissance de la population. On parlerait de pression démographique aujourd'hui,
qui fait que... C'était le cas à l'époque des royaumes combattants, dans le temps dans lequel a vécu Han Fei.
Voilà, mais qui montre bien du coup ce souci de prendre en compte une forme de conjoncture, enfin de moment donné, d'instant propice peut-être, je ne sais pas, mais qui va à l'encontre de ce que vous disiez sur le être égal être. C'est la nécessité qu'on est dans une atemporalité parfaite, alors qu'avec ce texte, on voit le souci d'ancrer dans l'histoire la réflexion.
Je dirais oui et non. C'est une réponse un peu normande, mais en réalité, c'est une position aussi, au fond, contre l'idée de l'histoire. C'est-à-dire que, au fond, ce que dit Han Fei dans ce passage, c'est l'histoire, c'est sympa, mais on s'en fout un peu, pour le dire un peu grossièrement. Il dit ce qui importe, c'est de voir ce qui est au-devant de nous et de faire avec ça. Et la nécessité, c'est la nécessité de ce qui est au-devant de nous, de la situation telle qu'elle est maintenant. Il n'y a pas d'autre temps que celui de maintenant, en tout cas pour les taoïstes. Donc, en réalité, le penseur légiste qu'est Han Fei, et qui a été un fils d'une période très troublée en Chine, qui ressemble un petit peu, là, pour faire un parallèle avec Machiavel, à cette époque de l'Italie où des petites principautés très puissantes commencent à monter et rentrent en conflit les unes avec les autres. C'est une période aussi de bouillonnement intellectuel.
Machiavel, dont on parlera mercredi prochain.
Et donc c'est une période de bouillonnement intellectuel, de pression démographique. Le grand monde chinois de l'Antiquité s'effondre ils sont dans une espèce d'entre-deux civilisationnel. Donc il faut prendre ça aussi en compte. Et là, Han Fei voit le danger qu'il y a à gouverner avec un rapport au temps, aux êtres humains et à la situation en général qui a plus de 500 ans, si vous voulez. Parce qu'on est dans des temporalités très très longues. Donc il y a une dimension de réel politique aussi. On dit, comment on fait pour suivre, au fond, une économie de vie qui était valable dans des royaumes très petits, avec une faible pression démographique, avec une certaine unité quand même de gouvernement. Il n'y avait pas plusieurs principautés. La pression militaire était beaucoup moindre. Donc il prend en compte le fait que la situation a tout simplement changé. La situation n'est plus ce qu'elle était. Vous voyez, ça, on est dans un rapport à l'histoire différente, c'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte, au fond, il prend en compte l'histoire pour regarder qu'elle a changé, et donc il ne faut pas en tenir compte. Oui, c'est un peu...
Mais il va quand même encore plus loin, puisque dans son texte justement consacré à l'art de gouverner, il en appelle à un changement et il montre, il dénonce les gens, il dit « Ceux qui n'entendent rien à l'art de gouverner disent souvent « Ne changeons rien aux anciennes traditions, ne bouleversons pas les pratiques établies. » Mais le sage véritable ne pense pas en termes de réforme ou de préservation. Il ne se préoccupe que de gouverner en accord avec la situation présente. S'il change de voie, s'il abandonne les coutumes, ce n'est que parce qu'elles sont obsolètes. Donc il évoque quand même la possibilité de changer de tradition, de changer de voie et donc de s'adapter à l'époque qui elle-même change.
Et au fond, il change même pas. C'est-à-dire qu'il va tellement loin dans ce rapport au présent pur, quasiment, qu'au fond, il change même pas. C'est-à-dire qu'il a même plus de rapport à ce qui a été. Ce qui a été ne l'intéresse pas.
Mais s'il parle de changement, c'est qu'il y a quand même avec à un moment donné qui était différent.
Mais parce qu'il pense à partir des Confucéens qui pensent au fond, le monde politique, et là, il faut vraiment entendre politique comme qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble, qu'est-ce qui fait qu'il y a un être ensemble. Donc les Confucéens pensent ça à partir de la tradition. L'être ensemble, ce qui fait qu'on est ensemble, c'est la tradition. C'est ça le monde politique, pour un Chinois confucéen. Et chez Han Fei, au fond, il voit que cet être ensemble, cette tradition est complètement obsolète. Donc il parle à ces Confucéens, il leur dit non, et qui étaient là pour beaucoup des conseillers du roi. Donc il leur disait non, il faut suivre la voie des anciens rois, il faut faire... Voilà. Et il voit que on s'enlise dans des pratiques, dans des conceptions qui n'ont plus lieu actuellement. Donc il parle à ces gens-là, d'un strict point de vue de gouvernant qui serait absolument acquis à sa vision des choses. Il y aurait, au fond, on pourrait dire, même plus d'histoire. Ça serait un simple présent perpétuel. Mais la situation, le jeu des forces, on pourrait dire le jeu des forces, la topographie, toute la situation se met de cette façon-là. Alors le roi qui se tient au centre tire X ficelle, Y ficelle, et hop, pour que les choses atteignent toujours un espèce d'état d'équilibre absolument immobile et silencieux. C'est l'immobilité et le mouvement, mais pensé tout à fait différemment de la façon dont on le voit.
En tout cas, une immobilité et un mouvement qui doivent être pensés à travers ce qu'on a dit tout à l'heure, les récompenses et les châtiments, donc à travers l'exercice d'une forme de violence qui est certes au service de la loi, mais qui, elle, s'éloigne bien de l'immobilité, du calme dont vous parlez.
Mais en réalité, il faudrait voir ou penser les choses à l'inverse, c'est-à-dire que ça n'est pas le roi en réalité qui châtie ou qui récompense, c'est la personne qui dévie de ce qu'on pourrait appeler la vérité, qui se châtie elle-même ou qui se récompense elle-même. Le roi ne bouge pas. Donc, il faut imaginer véritablement une espèce de mur. Et donc, si vous êtes, si vous allez trop vite, vous rentrez dans le mur. Et si vous êtes trop loin, vous perdez le... Vous voyez le parallèle. Donc, le roi, au fond, ne fait même pas ça. C'est-à-dire que c'est si les choses sont bien tenues. Et là le mot central, c'est la tenue, ce qui tient. Il faut tenir la vérité. Si la vérité est tenue... où la loi est tenue, la personne qui enfreint la loi, au fond, se brûle elle-même. La personne qui respecte la loi rentre dans le courant des choses et prospère naturellement. Vous voyez, c'est véritablement un système, on pourrait dire, sans personne.
Mais alors du coup, justement, j'en reviens à la question quand même centrale de cette émission. L'art de gouverner a-t-il un sens au sein de cette pensée? Puisque si le roi est obscur, le roi est invisible, ne se montre pas, il n'agit pas, c'est la loi qui gouverne, ce n'est pas lui-même. Qu'est-ce que c'est que signifie gouverner? Est-ce que la notion même de gouverner a encore un sens dans cette pensée?
Et oui, et là, vous avez tout à fait raison. Et ce qui a été moi dans mon... D'ailleurs, ce serait une erreur qu'il faudrait relever. Je pense que... il aurait fallu distinguer, en tout cas j'aurais dû distinguer beaucoup plus nettement gouverner et régner. Et je pense que le fond de l'affaire, c'est que ça n'est pas tant l'art de gouverner que l'art de régner.
Quelle est la différence?
Eh bien, il faudrait rentrer dans la langue elle-même. Le roi, donc on a le rex latin, le raja sanskrit, donc on a véritablement, on voit que c'est quelque chose qui est pensé à travers... le temps et les civilisations, c'est lié à la règle. C'est celui qui, c'est celui à la base même qui traçait un trait, et ça permettait de faire une ville. Vous voyez, donc il traçait juste un trait. On a la fonction royale. Il faut tenir quelque chose. On a encore la verticalité, qui est le roi en Chine, c'est Wang, celui qui tient ciel, terre, et donc qui fait qu'il y a monde. Donc vous voyez, on est dans un principe vraiment à chaque fois d'immobilité. Il faut tenir quelque chose. Il faut être juste la tenue elle-même. Il faut être l'axe de quelque chose. Vous voyez ? Alors ça, et pour faire un parallèle intéressant, là on a le génie des Grecs parce qu'ils pensent la politique donc la tenue de cet axe, non plus à travers une personne qui est le roi, mais à travers la communauté des hommes libres. La communauté des hommes libres, et ça, il l'appelle polis. Et là, vous voyez l'inouï du monde grec. C'est les seuls qui ont pensé ça. La communauté des hommes libres, ça fait loi. Alors que ce qui fait loi, c'est la rectitude du roi dans le monde chinois.
Sa rectitude vis-à-vis donc d'une loi dont
ce que vous appelez immobilité, ce qui vous dit, mais c'est quoi gouverner? Au fond, il ne gouverne pas, il règne. Ceux qui gouvernent, ce sont les ministres.
Oh, le jour où tu as été choisi pour être le guerrier dragon aura été le plus terrible de ma vie. Et de loin, rien ne s'en est approché. Cela restera la plus amère, douloureuse, traumatisante expérience que m'aura infligé mon destin. Mais quand j'ai réalisé que le problème ne venait pas de toi, mais de moi, j'ai trouvé la paix intérieure et j'ai pu dompter le flux de l'univers.
Alors c'est ça, faut que j'ai l'intérieur en paix. Mon ventre est déjà super, super pacifique, alors faut juste en fait que tout le reste en fasse autant. Hé, la paix, viens là que je te cause.
L'intelligence du prince ne lui sert pas à fomenter des plans, mais à laisser chacun prendre la place qui lui est propre. Son action ne consiste pas à asseoir la vertu, mais à observer les raisons qui poussent ses sujets à agir. Son courage ne le pousse pas à la témérité, mais se manifeste dans la puissance guerrière de ses sujets. Ainsi, en abandonnant l'intelligence, le prince obtient la clairvoyance. En abandonnant la vertu, il obtient l'efficacité. En abandonnant la témérité, il obtient le pouvoir. Les ministres sont à leur place et font leur devoir, les fonctionnaires observent les règlements et chacun est employé en accord avec ses compétences. Telles sont les marques d'un état stable et serein. Il est dit « L'ampleur de son immobilité rend son trône inapparent. Il est comme vide et fuyant, insaisissable. Le souverain éclairé ne fait rien et se tient au-dessus. » En dessous, la foule des sujets s'incline avec crainte. Telle est la voix du souverain. Il fait en sorte que les hommes brillants lui confient leurs plans et se contentent de trancher. Ainsi, son ingéniosité jamais ne s'épuise. Il fait en sorte que les talents se manifestent et se contente de les employer. Ainsi, ses domaines de compétences sont infinis. En cas de succès, le mérite lui en revient. En cas d'échec, seuls les ministres sont responsables. Ainsi, jamais son nom n'est terni. Au sujet, la tâche, au prince, la gloire. Voici la maxime du souverain.
Lorsque Han Fei écrit qu'en abandonnant l'intelligence, le prince obtient la clairvoyance, Alexis Lavis, il l'écrit dans le chapitre intitulé « La voix du dirigeant », on est tenté de se demander comment... Est-ce qu'il suffit de vouloir se déposséder de l'intelligence pour accéder à la clairvoyance? Est-ce que cela relève d'un choix? Et la question se pose également par rapport à la pensée du Tao que l'on a évoquée en début d'émission, à savoir essayer de se déposséder du moi, de se laisser aller, de suivre le cours des événements naturels. Est-ce que cela relève d'un choix, comme dans l'extrait qu'on a entendu juste avant de Kung Fu Panda, où le Shifu, son maître, lui disait qu'il fallait atteindre la paix intérieure. Il disait, ok, bon, alors, paix intérieure, à nous deux, allons-y. C'est une façon assez humoristique de poser cette question qui est quand même centrale et il me semble très importante au sein de la pensée de Han Fei, et même peut-être de la pensée chinoise en général. Qu'est-ce qui relève d'un choix, véritablement, dans ce choix de vie qui est prôné, hein, dans cette espèce d'adéquation aux éléments de dépossession du moi, de dépossession de l'intelligence au profit de la clairvoyance?
Alors, oui, moi j'ai bien aimé aussi le passage de Kung Fu Panda, où le gros panda se crispe comme ça, il dit je vais le faire, alors que justement il faut faire le contraire, il faut surtout ne plus rien faire. Donc il faut abandonner quelque chose de la croyance qu'on pourrait avoir et qu'on a tous, qu'on va pouvoir tout régler et tout déterminer. Il y a cette part immense de ce qui nous est donné, par exemple quand on y pense, notre nom ne nous est pas donné, notre sexe ne nous est pas donné, le temps dans lequel on vit ne nous est pas donné. Enfin, vous voyez, c'est immense ce qui ne nous est pas donné et ce qu'on a pourtant à habiter. Vous voyez, c'est le donné est premier et nous on a à habiter le donné. Au fond, ça c'est un des cœurs de la pensée du taoïsme. Après, il faudrait faire une séparation. Il y a la voie des taoïstes qui est une voie d'abandon. C'est-à-dire d'avoir un rapport au monde beaucoup moins lié à la volonté. Il faudrait arriver à vivre sans vouloir, c'est-à-dire sans vouloir imposer quelque chose à ce qui est comme il est. mais être en rapport réellement, d'abord, avant tout, à ce qui est comme il est. Et entrer de plus en plus en rapport à ce qui est dans ce qu'ils appellent l'intimité. Être intimement au réel. Oui, si cette phrase peut avoir un sens, je suis intimement au réel. Et ça, c'est une voie d'éveil, véritablement. Après, il y a la voie du souverain. Et moi, je le dis dans mon introduction, je pense que cette voie est inhumaine. Parce que vous êtes absolument seul, mais dans une solitude terrible. Vous êtes toujours espionné. Et vous ne devez être d'aucun parti. Rien ne doit être personnel. Vous voyez ? Et là, parce qu'il y a une pression, vous avez une responsabilité immense. Donc il faut véritablement, au fond, vous sacrifier. Et c'est très bien qu'il y ait ce sens du sacrifice qui redonne cette espèce de fonction sacrée à la fonction royale.
Merci beaucoup Alexis Lavis d'être venu nous parler de Hanfeizhe aujourd'hui.
Merci à vous.
Je renvoie à votre ouvrage, à votre traduction de l'art de gouverner de Hanfei qu'on trouve aux presses du Châtelet. Je renvoie également les auditeurs à un autre ouvrage, lui, préfacé et traduit par Jean Lévy qu'on trouve en Point Seuil qui s'appelle Hanfeizhe ou le Tao du Prince. Et également un autre ouvrage de votre part que vous avez écrit Alexis Lavis, L'espace de la pensée chinoise qu'on trouve aux éditions Oxus.